Radio Okapi.
Bibi Moukonkole pour les journaux.
Okapi.
Les titres de cette édition au Nord Kivu, une vingtaine de civils tués lors d'une incursion des hommes armés non identifiés à Ngadi et Kadowu. La société civile de Beni attribue ces attaques aux rebelles ougandais de l'ADEF. Elle appelle les autorités à la sécurisation de la population civile. Une vingtaine d'aires protégées seront créées sur la partie congolaise du littoral du lac Tanganyika. C'est l'une des résolutions prises lors d'un atelier sur ce sujet tenu pendant 2 jours à Lubumbashi. Le mois d'octobre décrété mois amical, l'hôpital du cinquantenaire à Kisangani. Des consultations gratuites sont prévues pendant cette période pour les enfants dont l'âge varie entre 0 et 16 ans. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Ouvrons ce journal au Nord Kivu. Incursion la nuit dernière des hommes armés non identifiés à Ngadi et Kadowu. Il s'agit d'un quartier et une localité à plus ou moins 15 km du centre de la ville de Beni. Selon des sources sécuritaires et administratives, le bilan fait état d'une vingtaine de civils tués. Les détails dans ce reportage de Martial Papi Moukeba, rendu ici par Richard Junior Kamunga.
Incursion en Ngadi, des hommes armés non autrement identifiés est intervenu aux environs des 19h locales. Selon des sources sécuritaires, arrivés dans ces quartiers de Beniville, les assaillants vont s'introduire dans plusieurs maisons avant de s'attaquer aux civils. D'après la même source, les bilans fait état de 13 personnes tuées, dont des militaires FRDC et 6 blessés. Selon des sources administratives, après Ngadi, ces assaillants vont également s'attaquer aux habitants de la localité voisine de Kadowu. Ici, ils tuent 14 personnes, dont cette femme. La société civile de Beni attribue ses attaques aux rebelles ougandais de l'ADEF. Elle appelle les autorités et l'armée à redoubler les efforts pour la sécurisation de la population civile. En séjour à Beni, depuis quelques jours, le commandant de la 3e zone de défense des FARDC s'est rendu sur les lieux des attaques. Le général Léon Mouchalet n'a fait aucune déclaration à la presse. De son côté, le maire de Beni vient de décréter ce jeudi une journée fériée en mémoire des victimes.
Pendant ce temps à Uvira au sud Kivu, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC et le chef et chef de la MONUSCO se dit très préoccupé du clivage entre les communautés ethniques de Mutarule dans la plaine de la Ruzizi. Dans sa deuxième visite hier à Mutarule, Martin Kobler a été accompagné par l'ambassadeur du Royaume-Uni à New York. Objectif, comprendre la situation et faciliter les efforts de rapprochement entre Bafuliru d'un côté et Barundi Banyamulenge de l'autre côté. Deux rencontres séparées ont été organisées avec chaque communauté. Fiston Goma a été sur place.
La communauté Barundi Banyamulenge a indiqué qu'il n'y a pas d'avancée significative dans le dialogue avec les Fuluru depuis le mois de juin dernier. Des attaques successives ont été menées contre le bétail et difficile aux Barundi de circuler suite aux tracts appelant les Fuluru à la vengeance. Leur porte-parole, le chef des groupements de Luberis et Claude Mirundi.
Nous, on a toujours rêvé envisager qu'il y ait un dialogue franc pouvant rechercher une paix durable dans la plaine, mais ce sont toujours nos voisins la Fuluru qui sont bloqués par certaines intimidations de ces milices qui opèrent dans la région.
Dans notre camp, c'est le coordinateur de la nouvelle société civile congolaise dans la plaine de la Ruzizi qui s'est exprimé pour la communauté Fuluru. Il a indiqué que les présumés auteurs du massacre du mois de juin dernier sont armés et se trouvent encore sur place à Mutarule, protégés par des officiers de FARDC, ce qui rend encore difficile le dialogue.
Jusque là, nous ne refusons pas le dialogue, mais tout simplement dans de bonnes conditions. Nous refusons simplement le pouvoir de Barundi parce que ce sont eux qui nous tuent.
Martin Kobler a insisté pour la reprise du dialogue entre toutes les communautés en vue de favoriser la paix et la réconciliation sans lesquels le développement de la plaine de la Ruzizi est hypothéqué. Pour rappel, Martin Kobler revenait de Chabunda avant son arrivée à Mutarule. C'est la deuxième visite du chef de la MONUSCO effectuée dans la plaine de la Ruzizi en l'espace de 4 mois. D'Ouvira, Fiston, Ngoma Mayabala, Radio Okapi.
Plus d'une vingtaine d'aires protégées seront créées sur la partie congolaise du littoral du lac Tanganyika. Ces sites ont été choisis lors d'un atelier portant sur la possibilité de création des aires protégées sur le lac Tanganyika tenu pendant 2 jours à Lubumbashi. 4 pays partagent le littoral du lac Tanganyika, à savoir la Tanzanie, la Zambie, le Burundi et la RDC. De tous, seule la RDC n'a pas d'aires protégées sur ce littoral. Reste maintenant la mobilisation des fonds pour protéger les 45% du littoral que possède de la RDC. Karine Topé pour les détails.
Cet atelier réunit les représentants du projet d'appui au programme régional intégré du lac Tanganyika PROPAD, le secrétariat de l'autorité du lac Tanganyika, le ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage, la division du développement rural, ainsi que les députés et autres autorités du district du Tanganyika. Des sites identifiés, plus d'une vingtaine ont été retenus, parmi lesquels les zones de Frayère, dont le territoire de Moba, entre la chefferie. Confirmation avec le rapporteur de l'atelier.
On a noté la chefferie Kansatala, de Kioti à Karema, à la rivière de Foucault, la rivière Ngayo à Bukui, à Kassanga, à la rivière Kassanga, à Kwale, rivière Kwale. Cité de Moba, de Kazombwe à Kinzungi, rivière Mulobozi, du quartier Geza à Katende, dans la chefferie Manda, la baie de Kamanda, la baie de Lunangwe.
D'autres sites sont identifiés à Kalemi, Kabimba et plusieurs autres chefferies du territoire. Notons que le PROPAD, qui est un service de l'autorité du lac Tanganyika, annonce déjà la présence des équipements de protection sur le lac Tanganyika dans deux vedettes ultra rapides. Lubumbashi, Karim Toperidassi, Radio Kapi.
En Ituri, le réseau Aki na Amani, une plateforme locale d'ONG des droits de l'homme, a rendu public ce jeudi, à Bunia, tous les risques qui guettent le projet d'exploitation pétrolière par l'entreprise Total dans le bloc 3 du Graben Albertine. C'était au cours d'un atelier de restitution organisé à l'issue d'une enquête menée en territoire d'Irumu grâce à l'appui de l'ONG Alerte Internationale. Parmi ces risques, le réseau Aki na Amani cite la présence des miliciens de Cobra Matata, les initiatives de l'armée pour les neutraliser, des tensions intercommunautaires, la rivalité des sous-traitants et l'incapacité du gouvernement à garantir le respect de la loi dans la zone d'exploitation. Au micro de Jean-Paul Bassila, Eric Mongo, coordonnateur du réseau Aki na Amani, explique le bien fondé de ce travail qui intervient en amont en prévision des activités de recherche pétrolière dans la région.
Dire aux gens combien de travail il y aura réellement, comment est-ce que les gens peuvent faire pour accéder à ce travail, qui peut être engagé, parce qu'on ne pourra jamais engager tout le monde. Qui représente les communautés? C'est à la base de beaucoup de conflits. La société civile se pointe, les honorables députés se pointent, les chefs se pointent, les églises se pointent, c'est moi qui représente les communautés. Ça crée un flou et ça met que la compagnie ne sait pas très bien avec qui il va traiter. Il y aura des manipulateurs, il y aura plein de choses qui peuvent être entraînées. Le but de ce travail, c'est d'essayer d'informer mais et Total et les autres parties prenantes, donc les communautés, les autorités locales, qu'est-ce qui peut arriver dans la région en termes de violations des droits humains. Donc c'est un travail qui essaye de prévenir, de dire aux opérateurs avec les opérations qui arrivent, si vous ne faites pas attention, il y aura ça sur les droits humains, sur les conflits dans la région. Parce que chacun a sa part à donner pour que l'on ait un climat apaisé, qu'on évite les violations des droits humains. C'est comme ça qu'on a partagé ça à la communauté.
Direction Kisangani, l'hôpital du cinquantenaire vient de décréter le mois d'octobre comme mois amical. Pendant cette période, il organise des consultations gratuites pour les enfants dont l'âge varie entre 0 à 16 ans. Selon l'administrateur gestionnaire de cette formation médicale, Dodo Missingi, son établissement hospitalier veut permettre aux parents de connaître l'état de santé de leurs enfants en vue de les faire soigner éventuellement. Il a dit au micro de Doc Kaskankou.
Un enfant, lorsqu'il est malade, la première des choses, c'est de savoir identifier la maladie, savoir identifier le problème. Et cela ne peut être fait correctement que par un médecin. C'est la raison pour laquelle le médecin directeur a décrété le mois d'octobre comme un mois amical pour l'hôpital du cinquantenaire. Et il a demandé à tous les parents qu'ils amènent leurs enfants gratuitement pour des consultations. Au moins, cela leur permettrait de savoir quel est le problème de l'enfant et puis prendre des dispositions appropriées pour son traitement.
Et comment ça se passe quand un parent amène un enfant, consultation, traitement, comment est-ce que ça se passe? Il faut avoir des frais de labo.
Oui, généralement, la procédure est que l'enfant vient, il est consulté par le médecin gratuitement. Si c'est fait que le médecin, après avoir fait la consultation, il doit expliquer aux parents quel est le problème de l'enfant, au moins le parent peut prendre des dispositions. C'est des petits examens de laboratoire, il peut les payer. Si c'est des médicaments, nous avons une pharmacie qui donne des médicaments à des prix abordables à tous.
Et puis pour terminer, au Cassé occidental, le monde célèbre le 16 octobre de chaque année la journée mondiale de l'alimentation. En RDC, cette manifestation a été lancée hier mercredi par la périphérie de Kananga, par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. À cette occasion, Jean-Chrysostome Vahamwitia a indiqué que 2014 a été déclarée par les Nations Unies comme année internationale de l'agriculture familiale. Il a de ce fait mis l'accent sur le rôle de l'agriculture familiale dans le développement rural et dans la contribution à la sécurité alimentaire. Le ministre Chrysostome Vahamwitia au micro d'André Kambalamjanaï.
L'agriculture familiale ne se limite pas qu'à la production alimentaire. Il s'agit d'une activité qui structure le tissu socio-économique et culturel. Elle fournit de la nourriture, elle gère le territoire, elle est une source de revenus et elle permet la préservation des valeurs culturelles et des modes de vie. Il est important de souligner le rôle que devront jouer les organisations professionnelles des petits producteurs et plus particulièrement les coopératives dans le processus de développement agricole. Les coopératives permettent aux petits producteurs d'accéder aux facteurs de production adaptés aux nécessités de la modernisation des processus de production, d'accéder aux services et d'accéder à l'information.
C'est la fin de ce journal sur Radio Capi. Merci de l'avoir écouté.